Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est sans conteste une écrivaine sans frontières. De l'Amérique du Nord, le Canada où elle est née, à l'Europe, l'Allemagne où elle a grandi et la France où elle vit, et aussi le continent africain qui ici revient aux origines, sans oublier de nombreux autres pays, Brésil, Haïti, Cambodge, Irlande, Italie, Israël, Tchécoslovaquie, je ne peux pas les citer in extenso, mais tous les horizons l'attirent, toutes les cultures la traversent, la transpercent, l'imprègnent et la nourrissent. Sans frontières géographiques, elle est aussi sans frontières artistiques, puisque la littérature, la musique, la danse, le théâtre, la photographie sont autant de formes pour elle de raconter des histoires, celles du passé entrelacées avec celles d'aujourd'hui. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Catherine, merci de cette présentation intimidante.
Mais tout à fait réel et justifié et sincère. Et donc, dans cette œuvre tournée vers le monde, voici votre nouveau roman qui paraît sous le titre « Arbre de l'oubli » aux éditions Actes Sud. Un texte qui s'ouvre sur le continent noir où l'une de vos protagonistes, Shaina, est là parce que, je cite, « elle veut mettre de l'ordre dans le foutoir de son identité ». Et là, au Bénin, elle va découvrir le rituel de l'arbre de l'oubli, justement, qui donne son titre à votre roman. Voulez-vous nous raconter cette histoire fondamentale et fondatrice, Nancy Houston ?
Oui, c'est une très belle histoire. Je l'ai découverte à l'occasion d'un déplacement à Ouida. Je suis allée maintenant deux fois à Ouida ces dernières années. Et il y a une pancarte au centre-ville qui évoque l'arbre. C'est sur un petit square. Et en fait, quand on va à côté de la porte de non-retour, d'où partaient les négriers, on voit un monument à l'arbre, parce que l'arbre lui-même n'est plus là. Mais on raconte qu'avant de monter dans les bateaux pour partir à une destination inconnue, mais de toute façon terrifiante, les personnes réduites en esclavage faisaient le tour de l'arbre, les hommes 7 fois, les femmes 9 fois. On dit que c'est à cause de croyances au sujet du nombre de côtes qu'avait chaque sexe. Mais pour confier à l'arbre leurs souvenirs de la vie africaine, l'idée étant qu'il fallait partir allégé de ces souvenirs, qu'ils allaient être trop douloureux à porter là-bas. Ça allait être plus lourd quelque part que même les chaînes sur le corps, les souvenirs allaient les faire souffrir. Donc l'idée était de laisser l'arbre les garder précieusement pendant quelques années, le temps qu'il fallait, et ensuite on les reprendrait à son retour.
C'est donc un arbre que vous avez découvert presque par hasard, Nancy Houston ?
Et j'étais déjà en train de réfléchir à ce livre, à vrai dire. Donc, ce n'est pas vraiment par hasard. J'étais là-bas pour apprendre davantage sur la traite, entre autres. J'ai visité cette porte du non-retour. J'ai fait plein de découvertes, de rencontres. J'ai essayé de m'immerger un petit peu, comme je le pouvais, dans l'ambiance de la vie africaine. Je l'ai fait aussi au Burkina Faso. Où je suis allée une ou deux fois également pour d'autres raisons. En fait, il s'est trouvé que ma vie m'a proposé plusieurs éléments qui ont convergé autour de ces thèmes de la déportation et l'esclavage, les souvenirs de notre passé lointain. Quand je dis notre, c'est aussi bien celui des Européens, bien sûr, que celui des Américains. Et c'est une partie de mon éducation qui restait à faire, je dois dire. J'ai fait mon lycée et le début de mes études universitaires aux États-Unis. Et on a très, très, très peu parlé de ce sujet. On l'a peu évoqué. Et c'est un des beaux aspects de mon métier, c'est que chaque livre me donne l'occasion de refaire mon éducation, de retourner à la librairie ou à la bibliothèque et de me plonger dans des littératures.
Et c'est donc à partir de là que vous choisissez de raconter l'histoire de Shaina, cette jeune Américaine perturbée parce qu'elle a été conçue par la gestation par autrui et qu'elle n'a jamais connu sa mère biologique, ce qui provoque une souffrance, mais aussi une grande colère en elle, surtout en grandissant. Et je me demandais pourquoi, avec vous, Nancy Houston, est-ce que c'est parce qu'elle ne comprend pas comment une mère peut laisser son enfant à la naissance ?
Je crois que souvent les histoires, mais même les enfants qui sont les enfants de deux parents qui, avec qui ils ont grandi, deux parents biologiques, sont en colère contre leurs parents. Donc on n'a pas vraiment besoin de chercher des raisons. Disons que l'adoption donne un très bon prétexte pour être en colère parce qu'il y a un abandon à l'origine. Et moi, j'ai connu pas mal d'histoires d'adoption où j'ai vu les dégâts que pouvait provoquer cette colère, justifiée ou non, enfin justifiée entre guillemets. La colère, très souvent, ça vient d'un sentiment de... On est choqué, on se sent trop seul, on est choqué qu'on ne nous aime pas assez. Et ça correspond bien à mes colères à moi aussi, je dois dire.
Alors, le terme de la maternité est récurrent dans vos livres, Nancy Houston. Est-ce qu'ici, vous avez l'impression de l'aborder différemment, dans le sens où il y a plusieurs exemples entre la grand-mère juive qui harcèle ses fils pour avoir des petits-enfants, l'actrice qui préfère avorter pour ne pas rater un casting, Lily Rose qui se rend malade parce qu'elle ne peut pas enfanter et va donc accepter cette GPA pour devenir la mère de Shaina. Que disent tous ces personnages de la maternité ?
Oui, tous ces personnages disent ce que nous disons, nous les femmes d'aujourd'hui, que la maternité ne va pas de soi. Et je crois que ça, c'est une chose que j'ai toujours su, parce que pour ma mère, ça n'est pas allé de soi. Ensuite, ce n'est pas une plaie que je m'amuse à rouvrir. C'est simplement un sujet que je trouve inépuisable parce que ambivalent. Mais pour revenir à la GPS,
GPA.
La GPA, je dis toujours GPS.
La GPA.
J'ai découvert en faisant des lectures autour de cela que, en fait, dans la population noire américaine, que j'ai maintenant décidé d'appeler les marrons et les blancs, j'appelle les beiges, et c'est vraiment pas du tout une coquetterie, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus près de la vérité et qu'on a forcé les choses en recourant à ces métaphores extrêmes de noir et blanc, comme si c'était aussi extrême, comme si c'était le jour et la nuit, comme si c'était les lumières et les ténèbres, etc. Donc je rejette toutes ces métaphores, je dis les marrons et les beiges. Voilà. Il y a beaucoup plus de problèmes de fécondité, j'ai lu, chez les femmes marrons que chez les femmes belges aux États-Unis. Or, ce sont les femmes belges qui profitent dans leur immense majorité des nouvelles techniques de reproduction.
Précisons en effet aux auditeurs que la maman biologique de Shaina est une femme marron, puisque en effet, j'avais bien souligné avec vous que vous n'écriviez jamais noir ou blanc, mais beige et marron. Et je trouve que au-delà de la poésie, c'est surtout une réalité. Et qui, comme vous le disiez, ne joue pas l'antagonisme, mais joue au contraire la nuance et la complémentarité des couleurs. Est-ce que justement, Shaina pourrait se sentir en porte-à-faux avec ses parents parce qu'elle n'est pas de la même couleur qu'eux, selon vous ?
C'est-à-dire, s'il n'y avait que ses parents dans le monde, ça pourrait bien se passer. Mais nous vivons dans un monde qui a une histoire. Et l'histoire du racisme aux États-Unis est très prégnante et très lourde. Nous l'avons vu avec les Black Lives Matter l'année dernière, surtout, mais encore maintenant. Ça fait plusieurs années que cela existe. Quand ils ont pris la décision d'envoyer les enfants marrons dans des écoles beiges, il y avait des policiers qui devaient implémenter cette décision. Et des foules de parents beiges. Il y a une photo incroyable de femmes de 30, 40, 50 ans qui sont venues pour hurler sur la petite fille marron qui arrive à l'école et elle doit aller à l'école dans ce quartier. Et on oublie que ce racisme, c'est tous les jours, c'est vraiment partout. Donc Shaina va expérimenter cela, d'abord de façon très très marginale, puis il y aura toujours des questions, il y a des petites filles à l'école qui sont des chippies, il y a toujours des chippies à l'école. Il y a toujours des gens qui vont être prêts à souligner une différence physique, à dire « mais ça veut dire quoi ? T'es qui en fait ? Tu viens d'où ? Mais ça peut pas être ton père, regarde, etc. » Et nous connaissons tous des exemples de ce genre de remarques qui fait mouche. Tout d'un coup, on le reçoit et on se dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et donc, même si on ne lui a jamais menti, même si on lui a toujours dit qu'elle avait une mère biologique ailleurs, qu'ils étaient tous d'accord, que ça s'est bien passé et tout, tout d'un coup, elle se rend compte, mais il y a une moitié de ma généalogie qui est effacée, en fait. Et elle a envie d'en savoir un peu plus. Et là, elle rencontre un mur.
Et c'est ce qui devient votre fil narratif aussi, Nancy Houston, justement, pour évoquer les Africains américains, des plantations au combat des droits civiques jusqu'à aujourd'hui avec les émeutes raciales. Est-ce que finalement, c'est en se réappropriant cette histoire que Shaina, par exemple, savoir que son grand-père est malien, savoir que sa mère s'appelle Selma, sans doute en hommage à la route de Selma, initiée entre autres par Martin Luther King, que riche de ce passé, elle peut commencer d'écrire sa propre histoire?
Oui, la chance qu'elle a, c'est de finalement rencontrer une jeune fille dans son lycée, qui est une jeune haïtienne, et qui va très tranquillement, avec beaucoup d'affection et de tendresse, faire son éducation politique. Et ça ne va pas arranger ses deux parents qui veulent se garer loin des voitures, en fait, qui veulent faire comme si tout allait bien, comme si c'était des histoires du passé, tout ça. Et ce ne sont pas des histoires du passé. Elles sont encore très présentes. Finalement, elle va tomber amoureuse d'un médecin haïtien. Je peux le révéler parce qu'on le découvre dans les premières pages du livre et le reste est un peu flashback. Mais c'est très important qu'elle arrive à enraciner son questionnement personnel dans un questionnement beaucoup plus grand qui relève de toute l'histoire de son pays.
Nous allons faire une pause musicale maintenant, Nancy Houston. Alors, le choix est large parce que dans votre roman, on entend du balafon, des percussions du Mali, du jazz Fats Waller ou Billie Holiday, mais aussi des steel drums ou du beat soca qu'on entend dans les Caraïbes et en Haïti. Justement, cette région et cette culture que Shaina va apprendre à connaître et à aimer. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre, vous, maintenant ?
C'est pas mal les steel drums qu'elle a pu entendre au carnaval de Boston, puisqu'on est dans les histoires de carnaval en ce moment.
Alors on écoute. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Nancy Houston, notre invitée, pour parler de son nouveau roman intitulé « Arbre de l'oubli » aux éditions Actes Sud. Un livre qui s'articule entre trois voix, celle de Joël, Lily Rose et Shaina, leur fille. Trois personnages solitaires qui ont été chacun à leur façon des enfants en marge, en résistance contre leur milieu d'origine, marqué par la religion, le puritanisme, les camps, la ségrégation, entre autres. Et après avoir longtemps parlé de Shaina, en première partie, qui, elle, cherche à mettre de l'ordre dans son identité en allant sur les traces de ses ancêtres sur le continent africain, arrêtons-nous sur Lily Rose, sa mère, qui n'est donc pas sa mère biologique, mais bien la mère qui l'élève et qui, dès son jeune âge, s'avère être en rupture avec ses parents, avec une particularité supplémentaire, des voix, des dieux, dit-elle, entrent dans sa tête avec force et violence. Que représente ce personnage pour vous, Nancy Houston ?
Comme toujours, je m'identifie à tous mes personnages principaux. Il m'arrive de faire des personnages qui sont un tout petit peu des charges en tant que personnage secondaire pour me reposer, pour rigoler un peu. On peut dire que Jenka est un petit peu ça, la maman de Joël, la mère juive, entre guillemets, mais dont j'ai connu beaucoup d'exemplaires dans ma longue vie. C'est avec beaucoup d'affection que je peux la caricaturer un tout petit peu. Mais Lily Rose, c'est quelqu'un qui m'est proche, à qui j'ai attribué... C'est fou comme le roman nous permet de voir toutes les facettes qui nous constituent, parce que Lily Rose, ça doit être mon 300e personnage à qui j'attribue des aspects de moi-même. Ici, c'est un aspect que j'ai déjà exploré dans d'autres romans, ce sont ces voix intérieures ennemies. Et c'est une chose que j'ai connue. Peut-être à partir du moment où ma mère est partie, j'ai commencé à entendre des voix. Je peux presque, avec certitude, remonter le fil jusque-là.
Si jeune déjà,
oui,
dès
oui,
l'âge
oui.
de 6 ans.
Tout à fait. Mais c'était de la compagnie au début. C'était des voix amicales, rassurantes, ensuite qui me recadraient un petit peu, qui me montraient qu'elles surveillaient. Et ensuite, d'année en année, c'est devenu des voix beaucoup plus liées au surmoi. Et tellement liées au surmoi que quand j'ai lu la théorie du surmoi de Freud plus tard, je me suis dit, ben voilà, c'est ça en fait. Mais je comprends maintenant que tout le monde n'a pas ça. Je croyais que tout le monde avait ça. Lily Rose, je développe donc ce thème. Elle va être accompagnée de ces voix qui l'attaquent finalement, qui la critiquent, qui l'observent, qui la diminuent, qui la mettent en boîte. Mais en même temps, elle apprend que ces personnages, qui sont des espèces de dieux punisseurs, ne parle pas des langues étrangères.
Voilà. Jusqu'au jour où, en effet, elle vient en France faire un cycle d'études. Et là, la langue est différente et elle se rend compte que les dieux deviennent muets. Et je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on peut vivre, en effet, différemment, dans une autre langue, renaître à la vie, refaire sa vie, Nancy Houston ?
Mais j'en suis la preuve vivante, mais ensuite mes voix ont appris quand même le français au bout d'un certain temps.
Ah, voilà. Elles sont malines, donc, ces voix.
Mais Lily Rose va élaborer toute une théorie là-dessus parce qu'elle est fascinée par les femmes artistes qui se sont suicidées. Et elle remarque que plusieurs d'entre elles ont essayé de s'installer dans une langue étrangère et de fonctionner dans une langue étrangère, comme si elles recherchaient cette même protection contre les voix intérieures. C'est une hypothèse qu'elle va développer, elle va travailler là-dessus. Donc c'est une femme qui est spécialiste des études de genre, on va dire. Elle enseigne là-dessus, elle a fait une thèse là-dessus, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui m'est très proche. Et en même temps, c'est ça que j'adore dans la littérature, on voit à quel point ce n'est pas une bonne mère pour Shayna. On voit à quel point les choses qui ont aidé Lily à survivre, qui sont de l'ordre de contrôle, l'organisation, d'être sûr que tout est sous contrôle tout le temps, en fait, ça va rendre sa fille totalement en barge. Et elle a besoin d'exploser, elle a besoin de colorier en dehors des lignes, quoi. Et donc, ça ne va pas être une relation facile.
Elle va, en effet, commencer à s'intéresser à ces femmes artistes qui non seulement se sont réinventées ou ont ressuscité dans une autre langue, je ne sais pas comment le formuler, mais elle a une autre intuition, à savoir que toutes celles qui ont attenté à leur jour ont sans doute eu des violences, subi des agressions quand elles étaient enfants. Vous le pensez aussi, Nancy Houston ?
Ensuite, je commence à penser que nous sommes très majoritaires, les femmes ayant subi des agressions sexuelles d'un genre ou d'un autre. Mais je pense effectivement, ça me frappe depuis de longues années. Je n'ai jamais vraiment fait des recherches approfondies pour écrire là-dessus, mais je recommande à une jeune femme de faire une thèse un jour. La thèse que Lily Rose a écrite, j'aimerais bien la lire, parce que ça me paraît revenir avec une fréquence hallucinante, l'histoire des abus sexuels, des violences sexuelles subies par des femmes qui sont des très, très grandes artistes. Il me semble que celles qui vont jusqu'au bout, quand il y a cette rage qui dit « j'ai besoin, un besoin vital de créer, si je ne crée pas, je meurs », mais celles-là, c'est très souvent des femmes qui ont été fracassées très jeunes.
Qu'est-ce qui tue le plus ? C'est la violence qu'on subit ou c'est le silence, le déni, voire l'oubli dans lesquels elles se jettent ? Et ça peut être aussi d'ailleurs la maternité, pourquoi pas ?
Ça, c'est une question magnifique. Catherine, merci de la poser comme ça. C'est la bonne façon de la poser. C'est-à-dire, maintenant que ces murs de silence sont en train de tomber un peu dans notre partie du monde, pas partout, mais dans notre partie du monde, mais ça bouge vraiment, effectivement, on peut se dire, peut-être qu'il y aura un peu moins d'agressions sexuelles. Peut-être que les filles auront plus le courage d'en parler, elles se sentiront moins coupables. Et peut-être aussi qu'on va sortir de ce syndrome très, très destructeur.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une libération de la parole. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle vient beaucoup par l'écriture. Vanessa Springora, Camille Kouchner, Florence Porcel. Que vous inspire le fait que la littérature devienne justement le lieu de la libération, Nancy Houston?
Mais en tant qu'écrivaine, ma tendance est toujours de faire un pas en arrière. Et je suis contente que ce sujet s'aborde et se discute sur la place publique, comme je viens de le dire. Ensuite, moi, je fais un pas en arrière pour plein de raisons. J'ai envie de dire, OK, puisque je vais beaucoup dans les prisons, j'ai discuté beaucoup depuis des années avec les violeurs, avec des tueurs, avec des pédophiles. Donc, je ne vais jamais dire « il faut les mettre en prison jusqu'à la fin de leur vie ». Par exemple, je suis incapable de prononcer cette phrase. Donc, quelles sont les causes de ces gestes chez les garçons en question? Ça, c'est très important. Autre question très importante, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous les femmes? Où voulons-nous mettre la virilité? Comment se fait-il que nous ne parlions presque jamais de la guerre, de la vente d'armes, de notre attente que quand il y a vraiment un truc grave, une urgence monumentale, nous envoyons les hommes à la guerre. Et là, nous ne voulons pas qu'ils soient doux et poreux et gentils comme nous et qu'ils montrent leurs émotions et qu'ils pleurent. Nous voulons qu'ils soient des robots, qu'ils se comportent comme des robots sans émotion. Donc, où sommes-nous par rapport à tout ça? Parce qu'il n'y a pas que des frôlements et des gestes pédophiles dans la vie. Il y a les guerres entre les pays. Il y a les centrales nucléaires. Il y a la destruction des forêts. Il y a les installations pétrolières dans le nord du Canada. Il y a des milliers de problèmes qui sont causés et entretenus jour après jour, année après année, par des mâles dominants que nous continuons de remercier, de récompenser, avec qui nous continuons, nous les femmes, pas les féministes françaises, mais nous les femmes plus globalement, avec qui nous continuons de faire l'amour, avec qui nous continuons de faire des bébés. Et là, c'est ma grande passion du moment, c'est de dire, il faut que les femmes arrêtent de faire des enfants avec des hommes puissants, avec des hommes dominants. Il faut que nous aimions d'amour les hommes faibles, les hommes pauvres, les hommes minables, les hommes qui doutent, les hommes incertains. Il faut qu'on arrête ce truc. C'est en train de tuer notre planète.
Pour revenir à la littérature, ce qui m'intéresse aussi dans ma question, c'est de voir avec vous que l'écriture est le lieu où on nomme, où on dit les choses, sans jugement de valeur en plus. C'est ça qui est beau dans cet acte d'écrire, non?
C'est ça qui me tient le plus à cœur. Je dois dire que toutes ces dernières années, je suis un peu tourmentée par cette chose-là parce que je trouve que c'est très important par ailleurs, comme je viens de le faire, de tenir des discours. Et je déteste les livres qui tiennent des discours. Je ne voudrais pas qu'on voie mon livre comme un livre programme, quoi.
Pas du tout.
Ou didactique. Donc, j'évite ça comme la peste, aussi bien dans ma propre écriture que dans celle que je consomme, l'écriture des romans. Il y a quelques magnifiques exceptions, comme L'Arbre Monde de Richard Powers. Je trouve que c'est un roman. En tant que roman, c'est génial. Et puis, c'est quand même très...
Un manifeste.
Très... Oui, c'est un manifeste, par ailleurs. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc, la littérature sert à ne pas juger. Il y a la très belle phrase, je ne sais pas à qui elle est, mais je l'ai entendue dans différents contextes. Chacun a sa raison et personne n'a raison.
Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire, est-ce que vous voulez bien, Nancy Houston, nous lire un extrait de ce roman « Arbre de l'oubli » ? Nous sommes presque à la fin du texte, presque à la fin de notre émission, si nous allons sans doute conclure avec ça. On vous écoute.
Nommé. Dans le fond, tout tourne autour de ça. Qui a le droit de nommer et qui ne l'a pas? dans la tradition hébraïque, c'est le caractère imprononçable du nom de Dieu, le tétragramme YHWH, qui prouve sa supériorité absolue. Personne n'a le droit de le nommer. Lui, par contre, a le droit de nommer Adam. Adam a le droit de nommer les animaux. Les animaux n'ont le droit de nommer personne. Les beiges ont le droit de nommer les marrons. Les marrons, interjecte Félisa, avaient le droit de nommer leurs enfants, mais seulement de façon provisoire. Chaque fois que l'enfant changeait de propriétaire, il recevait un nouveau nom, d'où Malcolm X, bien sûr. Les femmes, elles aussi, dis-tu en la coupant, devraient toutes s'appeler X. Jusque tout récemment, elles aussi devaient changer de nom en changeant de propriétaire. À la naissance, elles portaient le nom de leur père, plus tard celui de leur mari. Ma grand-mère Eileen était fière de s'appeler non seulement Madame Darrington, mais Madame David Darrington. Et même si on garde son nom de jeune fille, comme les féministes de la première vague, il n'a rien de féminin, bien sûr, c'est toujours le nom du père. De nos jours, on peut porter le nom de la mère aussi, dit Félisa. Mais ça ne fait que repousser le problème d'une génération, c'est le nom du grand-père maternel. Pourquoi on fait semblant? Tout le monde le sait que seule compte la généalogie masculine. Regarde la première page de la Bible, des mâles qui font jaillir des mâles, une génération après l'autre à l'infini. Même la masturbation des femmes est un péché moins grave que celle des hommes, car elle n'entraîne pas un gaspillage de semences. On n'a pas de semences, donc pas de nom à transmettre. On n'engendre pas. Les hommes engendrent sur nous. La chair est effacée, car évidente. La chair est oubliée, car flagrante. Qui s'est jamais soucié de l'arbre généalogique de Selma ? Dit Félisa. Essaye de remonter, je ne dis pas 10, rien que 2 petites générations, il s'étiole et disparaît. Je crois que je vais m'appeler Shena U dorénavant. U comme utérus, un des mots les moins euphoniques et les moins aimés qui soient. Curieux, n'est-ce pas, que le nom de notre premier foyer sonne si moche à nos oreilles ? U, une lettre en forme de matrice, de sac, de fourre-tout. U, la lettre qui nous a portés tous. U, ce qu'était Selma pour Joël et Lily Rose, un utérus anonyme, une femme nommée Utérus. Après, vous êtes serrés, vous vous dirigez chacune vers votre chambre sans fenêtre.
Merci Nancy Houston. Cette lettre U, qui en anglais se prononce You, c'est assez beau d'ailleurs. Toi, Houston aussi. Comme si vous aviez été déjà avant-gardiste sur choisir son nom. Qu'est-ce que vous inspire cette réflexion onomastique?
C'est très joli, je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'il y a le mot womb en anglais qui est beaucoup plus beau, qui a le W-O-M-B et qui veut dire aussi l'utérus. Il n'y a pas de joli mot en français comme ça. Womb, c'est magnifique parce que c'est un peu comme room, comme une chambre, mais il y a le B silencieux à la fin, donc c'est encore plus mystérieux, encore plus enserrant quelque part. Et je crois qu'il y a eu, il y a une vraie peur en fait de nos origines dans un corps de femme, et peut-être que nous n'en sortirons jamais.
Peut-être que si. Merci beaucoup Nancy Houston. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Arbre de l'oubli, qui est apparu aux éditions Actes Sud.
Merci.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.